Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Oh, c'est Noël! Il y a le Père Noël qui débarque. Bien le bonjour, les amis. J-5 avant le réveillon. Comment préparer les fêtes en se faisant plaisir et sans se prendre la tête? Restez avec nous jusqu'à midi et demi. Nous avons plein d'idées pour réveillonner vraiment en passant du temps avec nos invités et pas uniquement au fourneau. Voici mes bons vivants de Noël. Pas besoin des fêtes pour montrer qu'il a plus d'une recette dans sa hotte. Il nous régale tout au long de l'année. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent. Et je trouve que votre reine sur votre pull est magnifique, oui. Le Père Noël juste derrière.
Cette saison, absolument. Et il a mis son bonnet rouge comme un bordeaux avec un bouchon de liège en guise de pompon. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis, j'espère que vous avez été gentils.
Mais oui.
Vous serez gâtés sous le sapin.
Ah bah et comment, on a mis les chaussons. Hein. Et le chef Jean-François Piège sera des nôtres pour compléter ce menu de fête. Il va nous donner lui aussi ses astuces pour passer le réveillon avec ses invités. Et pas qu'en cuisine. En route les amis. Ah mais c'est un festival Jean-Luc Arblade, on a plein de surprises, hein. Je suis même pas au courant tout au long de l'émission jusqu'à midi et demi, vous allez voir, c'est un jukebox vivant cet homme-là. Alors avant de découvrir les conseils et les menus de fête de trois grands chefs, chaque année, j'aime bien ce rituel, je voudrais connaître votre goût de cette dernière semaine avant Noël, les amis, votre goût des préparatifs de Noël, tiens Yves.
Eh bien moi c'est, si je vous dis Laurent, le chant des amandes. J'ai goûté des amandes du Luberon,
ah bah oui,
le domaine de chant des amandes de Fabien et Ludivine. C'était une petite merveille. Et je comprends maintenant pourquoi l'amande est tellement importante dans ces fameux 13 desserts de Noël.
Exactement, on en a parlé la semaine dernière. On vous remercie pour vos nombreux messages. Hein. C'est un dossier qui vous a plu. Votre goût de la semaine des préparatifs de Noël, Olivier?
Eh bien, c'est un agrume de Corse, la main de Bouddha. Vous savez, cette espèce d'agrume bizarre qui ressemble à une main crochue avec une peau jaune comme un citron qui a un goût de citron, mais il n'y a pas de jus à l'intérieur. Et moi, je la râpe tout simplement sur des coquilles Saint-Jacques crues avec un petit filet d'huile d'olive. C'est magique.
Eh bien alors, mon goût de la semaine, moi, je l'ai eu en préparant cette émission. C'est un chocolat fourré avec un caramel beurre salé à l'intérieur de Jérôme de Oliveira, qui est un de nos meilleurs pâtissiers, qui est à Cannes, qui a une boutique à Cannes et à Grasse. C'est exceptionnel. Avec une coque, il a des pralinés aussi à l'intérieur. Jérôme de Oliveira, voilà. Ça fait partie des cadeaux qu'on peut s'offrir à Noël aussi, ces belles coques en chocolat. Et je peux vous dire qu'il y a des grands crus à l'intérieur. C'est un bonheur. On va vous conseiller, hein, comme ça, jusqu'à midi et demi, des artisans du goût partout en France. On va aussi entendre des chefs cuisiniers nous parler de leur menu de Noël. Et on va commencer, tiens, avec Anne-Sophie Pic. Jusqu'à présent, elle était toujours, hein, comme de nombreux chefs, évidemment, en cuisine pour le réveillon. Alors, quelle recette a-t-elle prévue pour réveillonner en famille cette année? On lui a posé la question.
Pour tout vous dire, mon menu de Noël, moi, souvent, je le prépare 10 jours avant parce que je suis tellement prise dans mon travail, finalement, au restaurant, que dernière minute, je me dis, mais il faut que je pense quand même à la famille pour Noël. Forcément, il y a la châtaigne, parce que moi, je suis en limitrophe entre la Drôme et l'Ardèche. Puis les Saint-Jacques aussi, ça va être souvent à la table. Peut-être faire une base de sauce vin blanc, une sauce champagne, avec peut-être une petite pointe de livèche, cette plante aromatique, l'âge des montagnes que j'adore. Très réconfortant, le goût, avec ce côté un peu herbacé, épicé dont on a besoin quand même en plein hiver.
Oh, puis une petite volaille du coin, la petite clochette. Merci Anne-Sophie Pic. Et évidemment, Anne-Sophie Pic qui, comme de nombreux chefs, continue à travailler avec le click and collect et puis les ventes à emporter. C'est vrai que c'est une première, ça, quand même, Yves Candebord, pour de nombreux chefs. Ils vont pouvoir réveillonner en famille.
C'est vrai que pour beaucoup de collègues, c'est une première. Pour moi, c'est une grande première. Je crois que c'est la première fois que je vais réellement faire un réveillon en famille. Alors, j'en suis super heureux, mais je peux vous assurer que Monsieur Coronavirus, j'irai pas jusqu'à lui dire merci,
non,
quand même.
Hein. On s'en passerait largement.
On s'en passerait largement. J'aurais préféré, honnêtement, être à mes fourneaux, même si je suis très heureux de passer du temps en famille.
Ce qu'on souhaite à nos chefs pour l'année prochaine, c'est de pouvoir passer le réveillon en famille en ayant fermé parce qu'ils auront bien travaillé juste avant pour pouvoir ne pas ouvrir le soir de Noël.
Nous signons dès demain.
Hein, on est d'accord. Oh, vous sentez la cannelle? Wow. Le clou de girofle, ces petites senteurs de pâte d'amande et de fruits confits, ça sent le Stollen, c'est un gâteau de Noël qui est célèbre en Alsace. Eh bien, on le déguste dans un instant, les amis.
11h30, on passe à table sur Europe 1.
Oh, de dessert, c'est une bûche?
Non, c'est clou.
Laurent Mariotte.
Joyeux Noël, fait!
Silver, silver, silver. It's clou.
Ah, il n'y a pas de doute, hein, ça sent Noël.
Peut-être donner la recette du clouk d'ailleurs.
Oui, le clouk, oui, mais pas que pour les Félix. Les brédélés, les manalas, les manalés, vous dites ça comme vous voulez, les pains d'épices. Eh bien, après la Provence, la semaine dernière, avec le gros souper de Noël, on vous emmène en Alsace goûter les douceurs de Noël. On va gravir le Mont Stollen. Vous connaissez le Stollen ?
Oui, oui, c'est un grand classique alsacien. C'est une brioche truffée de fruits secs et confits. Et c'est macéré dans de l'eau de vie ou du rhum.
Exact.
C'est surtout la brioche qui est très serrée. C'est une brioche très atypique. On ne peut pas la comparer à une brioche traditionnelle.
Non, puis on peut le faire rassir aussi. C'est ça qui est agréable dans le Stollen, Olivier.
Le Stollen ?
Le Stollen !
Oui, oui, on la mange tout au long des fêtes.
C'est traditionnel.
Je l'ai mal prononcé.
Exactement, c'est quelque chose qu'on garde vraiment... plusieurs jours sur la table. Alors c'est traditionnel en Alsace, hein, je le disais, mais ça fait aussi partie des desserts que les Parisiens aiment bien grâce à un chef pâtissier qui s'appelle Gilles Marchal, qui est le pâtissier de la Butte Montmartre. Gilles Marchal, il est lorrain d'origine, c'est l'ancien chef du Plaza et de la Maison du Chocolat, hein, c'est un vrai bec sucré. Il a ouvert sa boutique il y a quelques années sur les hauteurs de la Butte Montmartre, c'est une belle pâtisserie de quartier, et il nous raconte les secrets du Stollen au micro de Julien Matt.
J'ai voulu vraiment réaliser mon propre Stollen, mais en partant d'une recette que j'ai appris quand j'étais en apprentissage.
On entend ce bruit là qui est magnifique. En fait, là on a un sirop en fait qui s'est fait entre différents alcools, parce que moi j'en mets plusieurs, toujours la Mirabelle de Lorraine, et ces fruits là macèrent depuis le mois de juin. On a un petit peu de pruneau, un petit peu de dattes, des amandes, des noisettes. Et le seul zeste qu'on rajoute, c'est les zestes de clémentine, parce qu'on n'a pas les clémentines en été.
Vous m'avez dit 4 alcools différents ?
Ouais. Ah, alors là, j'en ai dit un, je peux pas dire tous mes secrets. Tous les mois, on remélange. Et puis s'il faut, on rajoute un petit peu de sirop, on rajoute un petit peu d'alcool, et ainsi de suite. On goûte, en fait, avant de le façonner en forme de pain. À l'intérieur, on va lui glisser un petit fourrage qui est du massepain. Donc le massepain, à la différence avec la pâte d'amande, c'est que c'est beaucoup plus riche en fruits. Celui-là, c'est 70% mais d'amande et que 30% de sucre. Donc on a enfourné à 180 et on met la cuisson à 160. Ça permet d'avoir une chaleur un peu plus forte au départ pour faire pousser et lever le Stollen tout de suite, dès l'entrée du four. Là, ils sont bien chauds. Alors là, il ne faut pas les manger chauds. Là, un Stollen, c'est bon. Allez, je vais dire au minimum une semaine après cuisson. Je vous en ai gardé puisqu'on en cuit depuis mi-novembre, pratiquement toutes les semaines.
Donc il y en a un pour nous ?
Voire peut-être même plusieurs si vous êtes sympa.
Eh ben, on en a un beau là. Merci Gilles Marchal, merci beaucoup pour cette belle pâtisserie. Pour moi, ça c'est vraiment un musée qui se mange. C'est un musée de Noël gastronomique, ça. Il y a tout à l'intérieur.
Il y a entre plein de saveurs, et surtout, il y a plein de textures. Le cœur effectivement plus moelleux, l'extérieur plus croustillant, les fruits confits. C'est délicieux.
Ouais, c'est vraiment des desserts voilà, traditionnels qu'on a envie de manger à Noël. Quoi. Il ressemble, je dirais, à la saison, il ressemble à l'ambiance de Noël. Il y a un plaisir gustatif.
Et ça
qui
se garde bien.
Chaque année à cette époque-là.
Plus ça rassit, plus le goût change aussi, ouais. Et plus le goût se concentre. C'est ça qui est intéressant. C'est recouvert de sucre glace. Et ce n'est pas que pour la déco, Olivier. Ce n'est pas que pour donner l'illusion de la neige.
Non, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a neigé dessus. Mais non, c'est un emprunt en fait, à la pâtisserie allemande, puisque outre Rhin. On fait à peu près la même pâtisserie, qu'on appelle d'ailleurs le Christstollen.
Oh.
On accole le Christ et le Stollen. Et on met ce petit voile de sucre glace par-dessus, car c'est censé représenter l'enfant Jésus emmailloté dans ses langes.
Ah oui, je le vois, maintenant,
vous le voyez bien.
Oui, je vois bien.
Voilà, et ça viendrait de Dresde, qui revendique la paternité de ce petit Jésus en culotte de glace.
Eh bien, le Stollen, merci à Gilles Marchal, le pâtissier de la Butte Montmartre à Paris, à Christophe Elder à Mutzig en Alsace, qu'on fait très bon, Thierry Mulaopt aussi à Strasbourg. Vous avez probablement des pâtisseries de quartier dans l'Est qui vendent le Stollen, donc c'est le moment où jamais vous retrouverez ce bon moment sur europe1.fr, évidemment.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de répondre à vos questions et pour cela, nous accueillons une bec sucrée aussi, c'est Fanny Rascle. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Bonjour.
Vous êtes Stollen ou pas d'épices?
Ah, j'adore ça, mais je peux pas m'arrêter, c'est mon problème. Je commence, je ne peux pas m'arrêter.
Bon, vous en a réservé une belle part.
C'est pas un problème Fanny ça.
Ça dépend, on peut en reparler après.
Vous avez récolté les questions de nos auditeurs sur le groupe Facebook des Bons Vivants et puis au 3921.
Hein. Exactement, si vous avez besoin d'un conseil pour faire vos courses, d'une astuce en cuisine, posez vos questions, nous sommes là. On commence cette semaine avec un message sur le répondeur.
Bonjour à l'équipe de la table des bons vivants, Alexandra Delanger. Je souhaiterais cuisiner pour la première fois un riz de veau. Laurent et votre bande, auriez-vous une recette simple à réaliser ? Merci pour vos conseils et très bonne émission à vous.
très bon choix, Alexandra. Le riz de veau, on ne va pas vous dire le contraire. Moi, c'est un de mes produits préférés. C'est pas facile et il ne faut pas se louper parce que c'est un morceau onéreux. Hein. C'est quand même aux alentours de 50 euros le kilo, le riz de veau. Donc, il ne faut pas se planter sur la cuisson. Il faut bien l'éplucher. Il faut le pocher, le faire, peut-être passer à la poêle après. Qu'est-ce qu'il en dit, Yves Candebord, le chef de la bistronomie ?
Le riz de veau, il y a deux morceaux différents qu'on trouve chez le boucher. C'est le riz de veau de cœur. Et le riz de veau de gorge. Alors, le riz de veau de cœur, c'est une pomme qui ressemble un peu, je dirais, à un morceau de viande assez conséquent. Et j'ai envie de vous dire, ce morceau-là, il faut pratiquement le rôtir comme si vous rôtissiez une viande blanche. Un bon morceau de beurre demi-sel et vous le rôtissez en lui donnant une belle caramélisation. Et après, déglacez-le avec une pointe d'acidité. Ça pourrait être un verjus, un jus de citron, mais c'est vraiment dans la même philosophie qu'une viande blanche.
Ça, c'est le riz de veau de cœur.
De cœur. Et il faut le laisser, comme on dit, laiteux. À cœur.
C'est quand même au moins un quart d'heure de cuisson en l'arrosant. Hein.
Il faut facilement entre 12 et 15 minutes selon l'épaisseur du riz de veau, mais laissez-le vraiment roser. C'est vraiment une texture très plaisante. Et après, celui de gorge, alors c'est vrai qu'on peut le travailler, je dirais, plus en sauce. Là, ce qui est intéressant, c'est le faire revenir, mettre une garniture aromatique, un petit bouillon, de la crème, un peu de vin jaune. On va laisser cuire.
Comme une poularde, oui.
Comme une poularde. C'est bien, on va le cuire pendant 35 minutes, 40 minutes, et après, vous l'accommodez avec. Par exemple, un joli petit riz façon risotto, ou alors en ce moment, on a la chance d'avoir par exemple des scorcenaires avec des marrons.
Les
salsifis. C'est des jolies associations qui sont très agréables.
Les cousins des salsifis, les scorcenaires qu'on confond souvent avec le salsifis. Yves, le riz de veau, vous l'avez blanchi avant de le mettre en sauce ou pas celui-là ?
C'est là que vous avez raison, Laurent, c'est que le riz de veau de gorge, il faut le blanchir parce que systématiquement, la membrane extérieure est un peu conséquente. Donc on le blanchit et on l'épluche.
Et on l'épluche, c'est ça.
Tout à fait.
Hein, ça vous va, Fanny, aussi ?
La technique a l'air claire.
On espère que ça conviendra à Alexandra. Alors, une autre question.
Une autre question sur le groupe Facebook des Bons Vivants, c'est Ludivine qui explique qu'elle voit dans les supermarchés de plus en plus de bières dites de Noël. Alors, quel goût elles ont ? Et tout ça sonne un peu marketing. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces bières de Noël ?
Ah, ça, c'est du marketing, c'est sûr, mais c'est une tradition.
C'était en fait une vieille tradition du XVIIIe siècle, à l'époque, où on était obligé de brasser de la bière en permanence parce qu'on n'arrivait pas à les conserver. Et donc, avant Noël, on faisait un brassage avec ce qui restait de la moisson, de malt et de houblon. C'était pas les meilleures bières de la saison, donc souvent on avait tendance à les aromatiser un petit peu. C'est les bières un peu plus puissantes, un peu plus amères.
À charger en épices.
Voilà, qu'on épice aussi pour donner cette petite tonalité de Noël. Bon, moi je suis pas un grand fan, mais bon, après tout,
Moi j'aime bien. Ça fait Noël. Et pour cuisiner, pour un velouté de carottes ou d'endives, ça donne une pointe d'amertume et il y a une petite sensation comme ça aussi épicée.
Faire des carbonades.
C'est ça, pour faire des carbonades.
Ah, j'aime bien ça. Hein.
Ouais. On continue à poser des questions pour la semaine prochaine, on sera là.
Exactement, sur le groupe Facebook des Bons Vivants ou sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes par appel.
Et ne bougez pas, Fanny Rascle, dans un instant, votre journal de la cuisine engagé et solidaire pour les fêtes. Et Jean-Luc Petit-Renaud se rapproche avec son bonnet de Noël, je l'ai vu près du périph. A tout de suite. Just hear the sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. On passe à table sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
C'est un Noël pour mes premiers copains oubliés.
Ah, l'idole, Johnny Hallyday, eh oui.
Je ne savais pas qu'il avait chanté Noël.
Si, Johnny a chanté Noël, il a fait un très bel album de Noël il y a quelques années, absolument. Noël, justement, c'est mieux quand on le passe avec ses invités et pas tout le temps fourré en cuisine, vous êtes d'accord ?
Oui, sinon c'est toujours le même qui se dévoue d'année en année en plus.
Alors restez avec nous, on va vous donner des idées de recettes et des astuces dans un instant pour passer Noël avec vos amis. Mais juste avant, voici les titres de notre journal de la cuisine. Trois belles initiatives solidaires et engagées. Et on commence ce journal avec un joli geste, Fanny Rascle, pour nos aînés confinés dans les EHPAD.
Oui, 47 boulangers et pâtissiers se mobilisent pour leur offrir un Noël gourmand après cette année plus que difficile. Et pour ça, ils ont besoin de votre complicité. Il suffit d'acheter dans leur boutique une boîte de biscuits, par exemple. Vous pouvez même écrire un petit mot sur l'étiquette et des bénévoles se chargent de les récupérer pour les offrir à des personnes âgées. Parmi ces étoilés et solidaires, il y a notamment Eric Kaiser ou la boulangerie Poilane. On aime beaucoup et c'est peut-être l'occasion de de rappeler qu'un cadeau à déguster, c'est sans doute la meilleure idée cette année pour les grands-parents ou même les arrière-grands-parents.
Absolument, et on pense à tout le personnel soignant qui fait un super travail dans les EHPAD, évidemment. Une autre idée de cadeau pour les gourmands, du chocolat éthique.
Oui, c'est une nouvelle initiative lancée cette fois par le Club des chocolatiers engagés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde du chocolat est au milieu d'une grosse tempête. Il y a quelques jours, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont demandé à deux multinationales qui produisent, vous savez, les barres chocolatées très sucrées qu'on connaît tous, de mieux payer la matière première cacao. De leur côté, ces chocolatiers engagés ont décidé de prendre les devants en créant leur propre logo. L'idée, c'est de faire connaître un chocolat qui vient du Cameroun, cette fois, qui est éthique, en circuit court et surtout qui est bon. Oui. Une trentaine d'artisans sont déjà dans ce club des chocolatiers engagés partout en France.
Bon, on va suivre le dossier. Et puis on termine, tiens, avec un calendrier de l'Avent, pas comme les autres, Fanny.
Oui, on prend la direction de la Somme à la rencontre de ces jeunes agriculteurs qui profitent des fêtes pour faire connaître leur métier et leurs produits sur les réseaux sociaux. Alors, ce calendrier de l'Avent virtuel, si vous cliquez sur la 14, il y a par exemple la famille Avet, producteur de lait. Derrière la case 6, c'est Camille Stel et ses escargots parfaits pour le réveillon. Et chacun en profite pour donner une recette au passage, comme Laure Poupard, bergère en baie de Somme, et son agneau de Noël aux épices. Je dis leur nom à chacun parce que l'idée de ce calendrier de l'Avent, c'est bien ça, c'est montrer, se montrer et montrer qu'on est installé tout prêt pour donner envie d'acheter local.
Et joyeux Noël à tous. Ça. Merci Fanny Rascle.
Merci.
Et votre menu de Noël, vous l'avez déjà, vous, alors?
Pas encore, je suis en retard.
Bah, vous avez les enfants qui sont pas loin, il faut aller faire les courses. Alors.
Je cours, je file. À très
Merci
vite.
Fanny Rascle.
Europe 1, Laurent Mariotte.
Alors on nous l'a dit, hein, on va passer Noël en famille, en petit comité, maximum 6 adultes. Ce sont les recommandations du gouvernement. Alors l'avantage d'un Noël en petit comité, c'est que ça réduit les pépins en cuisine. Hein, on peut se dire ça.
Parce que quand il faut faire à manger pour 15, c'est pas la même.
Mais exactement. Pourquoi, vous avez 14 enfants, vous?
Reconnu, uniquement reconnu. Tonton Jean-Luc se souvient des moments où son réveillon a failli sentir le sapin. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc Petit-Renaud, l'ami de la dinde et de la bûche.
Oh, je vous trouve particulièrement coquet ce matin avec vos guirlandes autour du cou. Alors vous savez que Noël, c'est pas que jingle bells avec les mains en l'air là où tout le monde chante. Je me souviens de quelques mésaventures de Noël. J'étais en tournage du côté de La Rochelle et on m'avait dit rapporte des huîtres de là-bas pour le soir du réveillon. Et bien entendu, c'est passé aux oubliettes. Au moment de l'apéritif, tout le monde me dit alors, on les ouvre tes huîtres? Coup glacial sur l'échine, je me dis j'ai oublié les huîtres, mon Dieu. J'ai foncé dans l'escalier, repris ma voiture et à toute allure j'ai fait les écaillés de Paris pour retrouver une bourriche que j'ai montée sur le lieu de réception. Et là on a ouvert les huîtres et j'ai eu cette récompense formidable qui a été, c'est quand même pas comme ici, elles ont un autre goût, tu parles. Elle venait de 30 mètres en dessous. Bon, ça c'est pour la petite anecdote, mais il y en a bien d'autres là avec la bûche. La bûche qui est trop grande pour rentrer dans le réfrigérateur. Alors on la met sur le bord de la fenêtre. Et là, vous voyez le Père Noël passer du grand smiley à plus du tout de sourire et s'enfoncer sur lui sous l'effet des 4 degrés de trop. Et au fur et à mesure de la soirée, de la dinde et du chapon, vous le voyez baisser la tête jusqu'à ne plus exister, la capuche dans les bottes. Vous avez une sorte de crème patapouf qui représente ce qu'était le Père Noël, avec bien entendu des beaux fous rires. Mais tout ça passe à la rigolade parce que c'est le soir de Noël. Joyeux Noël les enfants. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells.
Joyeux Noël Jean-Luc Petit-Renaud et joyeux Noël avec un peu d'avance. Ça, c'est dans 5 jours, hein. On prend un petit peu d'avance pour vous aider à justement ne pas stresser pour le réveillon. Moi, l'histoire de la bûche rapapla un peu patapouf, ça me parle, hein, sur le bord de la fenêtre. Hein.
Oui, je pense que ça nous est tous arrivé les galères à Noël où le pire, et c'est là qu'il faut rappeler aux gens d'être extrêmement prudents, c'est l'ouverture des huîtres qui tournent mal. Chaque année, il y a quand même un nombre important de personnes qui se retrouvent aux urgences avec un couteau à huîtres planté dans la main.
C'est le premier cas aux urgences le soir du réveillon.
Par pitié, les amis, ne gâchez pas votre
réveillon.
Hein.
Torchon plié, effectivement, pour éviter l'impact. On revient dans un instant. Et alors là, on va passer le menu de réveillon à la casserole avec vous, chers auditeurs. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Les mots bons à partager sont rares en ce moment. Alors à Noël, on profite les uns des autres en petit comité d'accord. Mais ça n'empêche pas d'avoir envie de le passer à table plutôt qu'en cuisine. Et à ce propos, avec Yves Candebord et Olivier Pouls, on a plein d'idées pour vous, les amis. C'est vrai que Noël est synonyme de temps passé en cuisine. Et ça ne devrait pas changer cette année. Olivier, vous avez des infos sur la question d'ailleurs.
En tout cas, un sondage pour Defork qui nous indique quand même que, et c'est une bonne nouvelle, 70% des personnes interrogées entendent cuisiner eux-mêmes leur repas de Noël.
Eh oui.
C'est quand même, en plus, ça fait partie de la fête, franchement.
Bah bien sûr.
Ça, alors... ça fait partie de la fête, mais quand je vois ces traiteurs, quand je vois ces charcutiers, ces bouchers qui se mettent en quatre, qui font des étals, c'est des vraies œuvres d'art.
C'est vrai, c'est vrai.
Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de leur faire confiance encore un peu plus ?
Vous avez raison, mais 30% d'entre eux le font déjà, du coup.
Mais bien sûr. Alors, dans les 30%, il en reste quelques-uns quand même à convaincre parce qu'eux, ils veulent manger du congelé. Alors, ça, ce n'est pas terrible. Mais franchement, faites tourner, comme vous le dites, les vrais beaux traiteurs à l'ancienne qui travaillent depuis des jours et des jours.
Eh bien, faisons-le. On va ouvrir le bal de notre menu de réveillon. On va commencer par les entrées. Une entrée qu'on pourrait acheter chez le traiteur et qui va donner, comme on dit, un bel effet de Noël à table. Vous penseriez à quoi, Yves ?
Alors, en entrée, parce que c'est Noël, moi, il me faut quand même une entrée un peu consistante.
Oui.
Moi, je vous dirais une bouchée à la reine.
Ah oui, c'est bien.
Ah bah vous y allez fort.
Il y a des traiteurs charcutiers. En entrée, une bouchée à la reine. On a le temps. Une super bouchée à la reine. Vous la prenez, vous la mettez dans votre four. Pendant ce temps-là, juste, vous montez une petite crème montée. Allez, pour s'amuser, vous y mettez 10 grammes de truffes hachées dedans. Quand la bouchée est chaude, vous la posez dans l'assiette de service. La cuillère de crème montée posée dessus. Ça va couler, ça va dégouliner, ça va nourrir votre bouchée. Et vous avez une entrée. Vous n'avez rien à faire. Vous avez pu faire l'apéro avec vos amis. Vous avez pu prendre du temps.
Et vous avez raison, on parle de la truffe ce samedi midi parce qu'elle est plus accessible que les autres années. Et en plus, elle a du goût. Elle est mûre presque plus tôt, si on peut dire.
Double bonne nouvelle. C'est vrai que normalement, la truffe, elle devient vraiment intéressante après les fêtes au mois de janvier quand il y a eu les premiers froids. Mais j'en ai goûté cette année qui est vraiment qualitativement très intéressante. Et puis surtout, bah, mon pauvre Yves, les restaurants étant fermés, il y a une demande un peu moins forte
bien sûr
sur la truffe et de la part des restaurateurs, ce qui fait que bah, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'elle est moins chère.
Autre indispensable du réveillon de Noël en entrée, c'est le foie gras. Deux tiers des Français mettront du foie gras sur la table cette année. Alors on peut déjà l'acheter tout fait, on peut l'acheter mi-cuit, on peut le faire, ce qui coûte moins cher hein, déjà de faire son foie gras soi-même aussi, Yves Candebord, en achetant un bon foie gras cru chez le boucher ou chez un volailler.
Oui, complètement, on peut se le faire. C'est vraiment un produit qui est très facile à réaliser. Alors moi j'ai une petite recette que je fais assez facilement. Je prends un foie gras entier que j'assaisonne de sel de poivre, que je mets un peu à mariner avec un petit alcool, ou alors un peu de verjus. Moi, j'aime bien le verjus sur le foie gras par rapport à l'acidité.
Et vous y allez hein, aujourd'hui voilà, sur le verjus.
Je l'aime bien ce verjus à ce moment-là. C'est l'époque aussi. Ce foie gras, je prends une poêle avec une feuille de papier aluminium ou papier cuisson. Je la chauffe, je jette mon foie gras dedans et je le rôtis de façon violente. C'est-à-dire que je vais lui donner une forte coloration. Et dès qu'il est bien coloré, je le sors, je le mets dans une terrine, je le presse et je le laisse refroidir comme ça. Et ça me fait un foie gras après froid, qui a été rôti.
C'est efficace. Hein
c'est efficace.
Ah oui.
Et surtout, ça amène un côté différent qu'on peut avoir au foie gras habituel.
Oui, c'est bien, on prend.
Moi, j'ai fait une méthode un peu candebordienne. Moi, j'ai assaisonné cette année mon foie gras avec du vin jaune et du curry. J'ai filmé ça, j'en ai fait un boudin. Micro-ondes, la cuisson de Yves.
Ah, ça marche. Hein.
À,
ça marche.
À 20 secondes par 50 grammes à peu près. Et puis après, je le laisse reposer 3-4 jours et je l'utilise. Mais on peut en acheter aussi. Hein.
Quelques adresses pour en acheter, justement,
bah,
Olivier.
Écoutez, le meilleur ouvrier de France, Arnaud Nicolas à Paris, par exemple, magnifique. Christine Ferber, en Alsace, elle ne fait pas que des confitures. Elle fait aussi de délicieux foie gras, et notamment de l'oie, qui est assez différent du canard.
Oui.
Moi, j'aime bien l'oie.
Oui, il est très subtil.
Il y a beaucoup de subtilité, c'est magnifique. Puis des grandes maisons hein, comme Godard ou Valette qui vendent en ligne, on peut encore à cette heure-ci
c'est
se
vrai.
Faire approvisionner.
La maison Bartouille aussi à Pérorade dans les Landes qui fait du saumon fumé certes, mais qui fait aussi de jolis foie gras bien assaisonnés mi-cuits qui vend en ligne. Donc effectivement, le foie gras va être sur les tables à Noël. Qu'est-ce qu'on boit avec un bon mi-cuit, Olivier ?
Mais moi, je suis partisan de ne pas trop sucrer l'accord. Une des grandes traditions, c'est les sauternes, c'est les vendanges tardives. Je trouve que le foie gras et le vin sucré, ça devient vite écœurant. Donc, je baisse le taux de sucre dans mon vin et je vais soit prendre des vins très légèrement sucrés, des demi-secs, un Vouvray, par exemple, avec l'acidité du chenin, ou un Riesling, mais pas sur une sélection de grains d'or.
Oui, on veut du sec. Il y a aussi, évidemment, dans les produits de la mer, un bon saumon fumé, une belle truite fumée. Ça coûtera même moins cher, souvent, qu'un saumon fumé. Il y a de bons élevages de truites en France.
Des élevages de truites bio, voilà. Notamment dans l'Yonne.
Une truite bio fumée en entrée, mais ça marche super bien. Un bon tarama aussi, un bon tarama artisanal ou qu'on va faire soi-même. Des œufs de truite, voilà aussi des idées en ce qui concerne les produits de la mer pour les mettre sur la table au moment de l'entrée. Alors, on va continuer à dérouler le menu de réveillon et on va passer au plat de résistance. Il y a des volailles, il y a des viandes rouges, mais pas que. À tout de suite.
Happy days, happy times, listen to the bells and chimes. Europe 1. Here comes Santa Claus.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Petit papa Noël, quand tu descendras ciel. Du ciel.
C'est bon ça.
Ah, c'est bien ça.
Avec. J'adore. Des jouets par milliers.
J'adore la belle Annie Cordy qui nous a quittés cette année, Annie.
J'ai pas reconnu ça.
Ben oui, elle a fait de très belles chansons à texte. C'est pas que Tata Yo-Yo, Annie Cordy. Elle...
Non, attendez, bon, celle-là, c'est pas non plus.
Non, mais c'est pas une grande chanson à texte, je suis d'accord. Mais oui, non, je pensais à d'autres. Sur le métier d'artiste, par exemple. Non, oui, c'est là.
La comédie musicale, le chanteur de Mexico avait Bourville.
Bien sûr.
C'est un monument.
Bien sûr, oui.
Annie Cordy.
Annie Cordy et Bourville, ce mignon. Et Luis Mariano sur les routes, ils ont fait une. Pas qu'à dada, vous êtes en forme, dites donc. Nous préparons le réveillon de Noël et vous le savez, le menu du réveillon de Noël, c'est aussi une machine à fabriquer des souvenirs. Quels sont vos souvenirs de Noël à table? Posez-vous la question, chers auditeurs. On l'avait posé, nous, à Guy Savoy, il y a quelques temps dans les locaux d'Europe 1.
Mon Noël d'enfance, 9 fois sur 10, c'était pas la dinde, c'était une noix. Lorsqu'on posait l'oie, cette oie rôtie au milieu de la table, le croustillant de la peau de l'oie, l'épaisseur du croustillant, parce que la peau est épaisse en dessert, c'était très souvent mousse au chocolat et orange ou clémentine.
C'est de beaux accords, ça. Moi, j'adore l'oie, la mousse au chocolat, la clémentine. Alors, c'est vrai que quand on pense aux fêtes de Noël, on pense aux volailles, Yves, la poularde, la pintade et la dinde. Vous êtes dinde de Noël ou pas, vous, alors?
Ah, moi, je suis totalement dinde de Noël. Mais non, la pure tradition, c'est la seule fois de l'année où on peut manger des dindes d'exception. Et quand c'est bien cuisiné, quand c'est bien élevé... C'est au moins aussi bon qu'un chapon.
Mais je ne suis pas dingue de la dinde, vous non plus.
Non, je trouve
Olivier.
Ça un petit peu plus sec, c'est un peu fade. Moi, je préfère une oie. Alors là, je valide tout à fait le choix
c'est
de
plus cher,
savoir.
C'est pas le même prix.
Mais il y a des traditions qu'il faut respecter. Est-ce que vous allez manger une galette des rois en plein juillet?
Non,
c'est vrai.
La dinde, c'est
vrai.
Noël.
C'est vrai.
Je n'y peux rien. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des producteurs qui ont fait des efforts pour justement avoir de la qualité dans le produit. Donc, il faut les soutenir.
Le bon rapport qualité-prix, moi, je trouve, c'est la poularde. On a de belles poulardes un petit peu partout en France. En Bresse, bien entendu, c'est aux alentours de 15€ le kilo, on va dire, la poularde. Une pintade, ça va être aux alentours de 12€. Il y a de beaux labels. On peut même les acheter en grande surface. Des pintades labellisées, ça se trouve, le magret de canard. Mais la poularde, je trouve que bien farcie, avec une belle farce, avec du foie gras, avec des marrons, on l'arrose, on a le beau gras de la poularde qui va la nourrir. On peut l'oublier un peu au four, c'est pas très grave, parce qu'elle risque un peu plus qu'une pintade de supporter la surcuisson. Ça marche bien, la poularde.
Oui, et puis surtout cette année, on est quand même moins nombreux autour de la table. Donc une dinde entière, je ne sais pas comment vous faites, mon chéri, mais vous allez en manger pendant 5 jours.
Une dinde, ça pèse 3 kilos de gens normalement constitués comme vous et moi, Olivier. Je peux vous assurer que ça va durer à peine la soirée, et après la bouchée à la reine.
Au rayon volaille, il y a aussi le chapon. Hein,
Le chapon qui est merveilleux. Alors si je peux vous conseiller un artisan, la maison Paris, sur les marchés de Biarritz,
oui.
sur les marchés de Bordeaux, vont proposer à partir d'aujourd'hui de superbes volailles, des oies de Guinée, des chapons, des pintades fermiers de notre région des Landes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de le dire, soutenons encore nos éleveurs avec ces produits.
Comment vous le cuisinez rapidement, le chapon?
Le chapon, pour moi, l'idéal, c'est le pocher la veille, comme une poule au pot, en l'ayant farci au préalable. Vous le sortez quand vous avez fini de le pocher, vous le laissez refroidir. Et le jour du repas, donc le jour du réveillon, le four très chaud, on commence l'apéro. 30-45 minutes avant de passer à table, on va enfourner ce chapon qui va se croustiller, qui va prendre la chaleur. Et je peux vous assurer qu'on a du croquant et du moelleux à la fois.
Alors dans la série des plats qu'on peut préparer à l'avance, il y a aussi le bœuf Wellington, qui est un bœuf en croûte. Hein.
Recette anglaise.
C'est ça. On peut le colorer carrément la veille, hein, dans une belle matière grasse. Ouais. On le laisse refroidir. On met une petite duxelle de champignons par-dessus. On l'enrobe d'une crêpe. Hein, c'est ce qui se fait en général. Et ensuite, on l'enrobe d'une pâte feuilletée. On met ça au frigo. Et au moment de passer à l'entrée le soir du réveillon de Noël, eh bien on met ça en cuisson pour 25 minutes à 180 degrés et on a un filet de bœuf en croûte, Yves. Ça marche,
c'est,
ça hein.
C'est une très très bonne idée. De toute façon, tout ce que j'ai dit qui est en croûte, tout peut être monté à l'avance, laissé au réfrigérateur pendant la veille ou l'avant-veille même, et à la dernière minute de cuisson. Et c'est vrai qu'on a toujours cette croûte, même s'il y a des fois une petite surcuisson, mais conserve le moelleux.
Alors, côté dessert, 38% des Français mangeront une bûche à Noël. Je pensais que ce serait plus, moi. C'est pas tout à fait la moitié des Français qui veulent de la bûche. Il y a d'autres alternatives à la bûche, de toute façon, Yves.
Oui, après...
On va chez son boulanger-pâtissier, pardon, déjà, parce qu'il bosse comme des dingues là, pour nous faire de belles bûches. On se risque pas non plus à faire une bûche compliquée.
Oui, mais avec parfois un petit abus. Je trouve qu'il y a des bûches qui, franchement, sont extrêmement chères. Des bûches signées, entre guillemets, des stars de la pâtisserie.
La haute pâtisserie, oui.
À 120 euros la bûche, faut pas exagérer non plus.
Non, bon, on les regarde, celles-là, dans la vitrine.
Ouais. Mais après, c'est vrai que bon, on reste sur une saison où on a, par exemple, la poire, qui est un produit d'exception. Pourquoi pas travailler une poire? Et moi, ce que j'adore en ce moment, c'est le laurier, que je trouve que c'est le laurier, pour moi, représente aussi un peu l'environnement de Noël. Faire une petite crème caramel de façon classique, mais simplement mettre du laurier à infuser dans le lait quand vous le faites bouillir et le laisser infuser pendant 15 minutes. Et après, vous faites l'assemblage classique d'une crème caramel, une poire pochée, une crème caramel au laurier. Ça peut être une alternative marrante à la bûche.
Ah, c'est bien ça, oui. Mais une poire belle Hélène, je trouve que ça a quelque chose de magnifique, moi, le soir de Noël.
Mais la poire pochée, c'est un fruit d'exception. Pour
une
moi,
poire
c'est
pochée
sans doute,
au vin rouge.
C'est sans doute le fruit qui fonctionne le mieux en poché. Et c'est vrai que le classique poire belle Hélène, vous êtes sûr d'une chose.
Et ça se fait à l'avance aussi, ça.
Ça se fait à l'avance, ça marche toujours. Et surtout, les enfants sont toujours heureux.
Et c'est pas cher, comme on dit. Vous retrouverez évidemment les recettes sur europe1.fr ainsi que le podcast. Vous êtes nombreux à vous abonner au podcast, donc continuez à l'écouter. C'est gratis, comme on dit, comme la newsletter Europe 1 qui vous permet de retrouver nos conseils et nos recettes. Bon samedi midi, ne bougez pas, on revient dans un instant. Alors là, attention, on met les petits plats dans les grands. Nous recevons un de nos plus grands chefs cuisiniers à la table des bons vivants. Jean-François Piège est en train de s'installer. A tout de suite.
Europe 1.
Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight, tonight.
Bientôt midi, c'est l'heure d'accueillir notre invité, les amis. Enfant, il découpait les recettes dans les magazines de cuisine en regardant sa maman au fourneau. Bonjour. Après des années aux côtés de Christian Constant et Alain Ducasse, il est devenu l'un de nos plus grands chefs cuisiniers. À la tête de 4 restaurants parisiens, il vient nous voir avec son 5 restaurants parisiens, j'en rajoute un, j'avais oublié Jean-François. Il vient nous voir avec son dernier livre, Un trésor de la cuisine française, aux éditions Hachette. C'est Jean-François Piège, notre invité. Bonjour Jean-François.
Bonjour Laurent.
Je vous pose la question quand même. Comment ça va?
Quelqu'un qui avait 5 restaurants au passé, qui en a 0 aujourd'hui.
C'est ça, ça va revenir. Ça. C'est du temporaire.
Ça dure un peu quand même.
C'est du temporaire qui dure un peu trop longtemps.
Ça dure un peu. Ouais. Ça fait 8 mois aujourd'hui, c'est long.
On est d'accord. On en parlera tout à l'heure justement de la situation. Mais avant, je voudrais vous faire réagir sur ce magnifique livre, Le grand livre de la cuisine française, recettes bourgeoises et populaires aux éditions Hachette. J'adore ce bouquin. C'est dans la lignée du Gouffé, c'est dans la lignée des livres d'Auguste Escoffier. C'est un gardien du temple de notre cuisine française, ce livre, Jean-François Piège.
Alors, oui, évidemment, mais la différence, c'est que les livres d'avant, ils avaient une littérature que je n'ai pas, parce que nous, aujourd'hui, on fait des livres pratiques. Et ce que j'aime, moi, dans les vieux livres, c'est que c'est des livres où il y a une littérature culinaire qui est plus belle. Moi, je suis resté plus dans le pratique. Grosso modo, pour faire ce livre, j'ai des auteurs, parce qu'il n'y a pas de recettes qui sont à moi dedans, c'est que les recettes des autres qui appartiennent au patrimoine. Je me suis inspiré des recettes qui ont fait le cuisinier que je suis et des auteurs qui ont fait le cuisinier que je suis. C'est Prosper Montagnier, c'est Édouard Nignon, c'est Auguste Escoffier, c'est Urbain Dubois. Et c'est ces gens qui ont fait le cuisinier que je suis, parce que j'adore ces livres, je les ai feuilletés.
Gouffé qui était le premier à mettre les grammages, les quantités et les étapes d'exécution dans un livre.
C'est vrai aussi, mais c'est faux parce qu'il a fait 4 livres. Le premier livre qui est le plus rare, c'est le livre des conserves, qui est un tout petit livre qui est extrêmement rare. Il est rare parce que quand il a été imprimé, il a été stocké dans une cave et il y a eu une inondation. Il n'y en a que quelques dizaines.
Ah oui, c'est collector ça.
Mais c'est ça que j'aime aussi dans les livres, parce qu'ils ont tous une histoire quand on les a trouvés, une histoire quand ils ont été fabriqués. Et ce livre-là, il a son histoire aussi, parce que en fait, je ne savais pas que je l'ai découvert le jour où je l'ai reçu, à quoi il ressemblait.
2,9 kg, c'est un beau bébé, hein, je l'ai pesé hier soir. je vous promets.
Et il a mis longtemps, hein, parce qu'il n'a il a pas mis 9 mois. J'ai pas mis 9 mois pour le faire.
Combien de temps ?
Le double.
Il y a ouais. tout. Oui, c'est parce qu'en fait, la cuisine populaire et la cuisine bourgeoise.
C'est quoi la France ? La France, elle a de sa richesse que par ses territoires. Pour la cuisine, pour moi, le mot juste, c'est territoire. C'est la conjonction du terroir, de sa culture au sens propre comme au sens figuré, des hommes et des femmes qui la font vivre et du moment où l'on est. Et la France, c'est ces territoires-là qu'on retrouve.
On va continuer à en parler de votre beau livre, votre grand livre de la cuisine française. Noël approche, Jean-François Piège. Quel est votre goût de Noël, tiens, justement ?
Alors moi, Noël, je suis totalement classique. S'il n'y a pas de foie gras, ce n'est pas Noël.
Ah ben on en parlait, hein, c'est ça.
Moi, foie gras, c'est Noël.
Mais cuit ou cru, juste passé à la poêle aller-retour ?
Alors non, moi, le foie gras pour Noël, c'est une terrine. Que
c'est
ce
ça,
soit
hein.
Cuit dans de la graisse, que ce soit du foie gras d'oie, du foie gras de canard, que ce soit... Non, pour moi, c'est du foie gras froid qu'on mange avec des toasts.
En
mais surtout qu'on ne boit pas avec du sauterne.
Voilà, bah vous êtes d'accord avec Olivier Pouls, on en parlait tout à l'heure. Jean-François, dans votre livre, il y a aussi des champignons en fricassé, il y a des champignons en duxelles. Eh bien, Yves Candebord, que je ne vous présente pas, puisque vous avez démarré ensemble chez Monsieur Constant, eh bien, Yves Candebord a eu la bonne idée de nous mettre au parfum des champignons, mais non pas frais, parce qu'ils sont assez compliqués à trouver en ce moment, mais des champignons séchés, Yves, hein, racontez-nous.
Oui, je pense que c'est une très très belle alternative en ce moment, que ce n'est pas la saison du frais, de prendre des séchés. Alors, dans l'ensemble, c'est pas exactement quand même, c'est pas exactement le même goût que le frais, si ce n'est peut-être la morille séchée
qui s'en rapproche,
frais, qui s'en rapprochera. Mais c'est une alternative très intéressante parce que on peut faire d'autres choses que les recettes classiques qu'on fait avec le frais. Alors, on trouve sur le marché, par exemple, la morille, qui est le champignon noble le plus cher, qui est à 35 euros les 50 grammes,
ouais.
Les girolles, 14 euros les 50 grammes, et les cèpes, 11 euros les 50 grammes. Et des fois, on peut arriver aussi à trouver des trompettes de la mort.
Qui mais sont on peut les faire frais. Aussi. Moi, je l'ai fait, mes trompettes de la mort séchées au four.
Alors, faut-il les ramasser, Laurent ? Faut-il les trouver ?
Bah oui.
Mais c'est vrai que c'est assez facile à réaliser.
Et comment bien les acheter, alors, ces champignons séchés ?
Il y a des critères quand même, pour moi, importants. Déjà, la provenance. Et c'est vrai que sur le marché, si on ne fait pas attention, on arrive à trouver des champignons qui viennent de Russie ou de Chine. Alors, j'ai rien contre les Russes, les Chinois, mais on n'a pas de traçabilité, donc faisons attention. Après, je pense qu'il faut vraiment éviter les mélanges, parce que d'un mélange, on peut se retrouver avec beaucoup de champignons de Paris mélangés au milieu d'autres champignons séchés. Et après, le critère assez basique, mais qui peut être le critère essentiel, c'est des paquets transparents, parce qu'au moins, vous voyez vraiment le champignon. S'il est entier,
puis on le reconnaît, oui.
On le reconnaît assez facilement. Et surtout, on peut voir s'il y a beaucoup de poussière. Parce que si vous avez beaucoup de poussière dans les sacs, ne les achetez pas.
Comment on s'en sert en cuisine, alors ?
Alors, il y a deux grandes façons d'utiliser. C'est les utiliser en les réhydratant.
Ouais.
Alors, la première façon, alors, on les réhydrate dans un liquide tiède. Alors, l'intérêt de ça, c'est qu'impérativement, il faut conserver ce liquide. Par exemple, faites-les réhydrater dans du lait, un lait tiède. Ce lait, vous le gardez. Il peut vous servir d'ailleurs pour faire une quiche champignon.
Ah, c'est bien ça, voilà, oui.
Ça sera
donc,
déjà
oui,
parfumé.
Ça va encore concentrer le goût, en
ça
plus.
Ça va concentrer le goût. Et après, on peut les utiliser en séché. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser soit en poudre. C'est-à-dire qu'en poudre, quand vous les avez en poudre...
Ah, vous faites purée, vous m'aviez fait ça une fois, j'adore.
Une fois, mais je vous donnerai une recette tout à l'heure, vous allez voir, d'une purée. Mais quand vous les avez en poudre, vous les faites mixer, vous avez une poudre de champignons que vous pouvez utiliser dans une vinaigrette, que vous pouvez mettre, en fin de compte, comme une épice, comme forme d'exhausteur de goût.
Ça vous parle, Jean-François Piège, ces petites idées de Candebord ?
Je trouve qu'elles sont très bonnes. Tu devrais faire de la cuisine, mon cher Yves.
Ou sinon, quand vous les avez aussi en sec, directement, lancez dans un bouillon, dans un consommé, ça va permettre de parfumer le consommé instantanément.
Et j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que si vous n'êtes pas sûr de la provenance, avant de les réhydrater, la première fois, vous les lavez super rapidement. Parce que si jamais ils ont traîné à la poussière, ça enlèvera juste le petit truc rapide. Et après, vous les mettez dans l'eau tiède. C'est peut-être la chose.
D'accord.
Il a tellement des beaux champignons qu'il n'a pas besoin de le faire.
Beau truc.
Allez, deux recettes.
On peut s'en servir pour donner un petit air de fête à nos recettes aussi.
Là, je vais vous donner une petite recette pour l'entrée de Noël, entre guillemets, un cappuccino. Vous faites un potage poireaux pommes de terre, mouillé avec l'eau. Vous avez réhydraté vos champignons. Mmh. Vous rajoutez vos champignons, vous faites bouillir, crémez à peine un peu, vous mixez, vous mettez ça dans une tasse à thé, vous montez une petite crème montée que vous déposez sur la tasse à thé, vous mixez des champignons en poudre et vous saupoudrez de poudre.
Ah, c'est joli ça.
Ça vous fait un petit cappuccino, très simple, très facile à faire. Et juste après, un accompagnement de viande, un accompagnement d'une viande de porc.
Séché, mixé.
Vous prenez les champignons, séché, mixé, vous avez une poudre de champignons, une pomme purée, vous êtes prêt à la servir. Vous prenez une cuillère à soupe, deux poudres de champignons, vous prenez, Laurent, un carré de chocolat, vous donnez deux coups de cuillère, ça vous fait comme un marbré, Ça vous fait une petite purée.
C'est super. Ouais,
chocolat
c'est...
champignon.
Je l'ai fait. J'avais pas mis le chocolat. Je connaissais pas le coup du chocolat. Eh ben, je prends. Merci, Yves Condebord, Jean-François Piège. Restez avec nous. Vous nous avez apporté le plat du jour, et je devrais même dire plutôt l'entrée du jour. Un monument de la cuisine bourgeoise, mesdames, messieurs, un chef-d'œuvre du goût. De quoi s'agit-il? Ne bougez pas. Vous le saurez juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. À tout de suite.
Midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Nous sommes là avec notre traîneau et nos cadeaux. Soyez les bienvenus si vous arrivez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi depuis 11h. On a vu comment passer le réveillon à table avec ses invités sans se stresser. Nous avons tranché aussi de belles parts de Stollen, la brioche de Noël de Gilles Marchal, le pâtissier de la Butte. Vous retrouverez ces moments évidemment dans le podcast sur europe1.fr. Et nous revoilà avec notre invité, le chef Jean-François Piège. Jean-François, vous êtes venu nous voir avec ce grand livre de la cuisine française, une belle idée de cadeau pour Noël. 2,9 kg, les amis, de plaisir, d'amour et de bonheur. Je trouve que c'est un conservatoire de notre patrimoine gastronomique. C'est un répertoire de nos recettes populaires régionales. Je le disais, la seule meunière côtoie la bouillabaisse. 1000 recettes. C'est quoi l'idée, en fait? C'est vraiment d'être dans la transmission. Qu'est-ce qui s'est dit, le petit Jean-François Piège, qui découpait des recettes de cuisine avec sa maman quand il a fini ce bouquin?
Non, je l'ai fait, ce bouquin, parce qu'en fait, quand j'ai racheté la poule au pot, on a fait les essais de la poule au pot, et quand j'ai demandé à mes cuisiniers ce qu'était une soupe à l'oignon, ils m'ont tous dit du bouillon et des oignons, ce qui au demeurant est vrai. Ouais. Mais pour moi, la soupe à l'oignon, c'est une marmite de bœuf, c'est des oignons sués avec un bouquet garni, déglacé au vin blanc, avec une pointe de madère, et dedans, c'est pas de la baguette, c'est du pain au levain pour pas que le pain y tombe. Et je me suis dit que quand on a essayé de retrouver toutes ces recettes et de les codifier, il y avait que des raccourcis qui étaient là. Alors, ce livre, c'est surtout pas la vérité, parce qu'on pourra lui opposer des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins, ça va un petit peu plus loin que le raccourci. Et c'est ce que je voulais transmettre, c'est qu'il y a un livre qui soit édité aujourd'hui, qui soit là encore pour quelques années,
ah, il va rester, hein.
Qui fasse référence de quelques recettes qui font notre identité. Et je trouve que...
La précision, toujours aussi, ça vous est cher, ça, la précision.
Oui, j'aime bien. Après, moi, j'ai fait des choix. Par exemple, la soupe borgne, qui est la soupe marseillaise, qui est la bouillabaisse sans poisson, pour ça qu'elle c'est populaire. Il y en a qui le font avec des œufs pas frais. Moi, je préfère le faire avec des œufs frais.
Olivier,
quelle liberté vous vous êtes octroyé sur, justement, la réécriture des recettes?
Ça dépend. Parfois, aucune. Et parfois, c'est quand j'avais envie, en fait. Ça, c'est... J'aime bien le dire, quand je le dis à l'éditeur, c'est à la liberté de l'auteur.
Le grand livre de la cuisine française, c'est votre livre chez Hachette, Jean-François. Alors en cette période, malheureusement, j'ai envie de dire, vous avez plus de temps pour cuisiner chez vous. C'est quoi la cuisine de Jean-François Piège à la maison? Vous d'ailleurs proposez Jean-François Piège à la maison depuis vos restaurants en livraison et en click and collect. Mais chez vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment à votre petite famille?
J'ai fait hier soir un pot-au-feu.
Ah, il y a celui de Dodin Bouffant dans votre livre de pot-au-feu. Qui est le...
Oui, mais qui est un pot-au-feu imaginaire. Hein.
Oui, mais c'est Bocuse l'a repris, ce pot-au-feu de Dodin Bouffant, un peu avec la poularde,
voilà,
avec le
plat de côte. Avec les 7 viandes. Oui. Lui, il faisait 4 services. Moi, je me suis inspiré, j'en ai fait, pour répondre à Olivier, ça c'est une recette où j'ai mis un peu mon nez dedans, parce qu'il fallait qu'il soit à la fois Dodin Bouffant, mais il ne fallait pas qu'il soit gargantuesque.
Alors c'est l'heure du plat du jour, et je devrais plutôt dire l'entrée du jour. Une entrée qu'on retrouve à la page 615 de ce livre de Jean-François Piège. Combien il y a de pages?
Plus de 1088.
1088, c'est beau, hein. C'est une belle somme, comme on dit. Et que voilà arrivé à notre table. C'est un joli pâté en croûte que vous pourrez faire en retrouvant la recette dans le livre de Jean-François Piège. On vous la mettra d'ailleurs pour vous spécialement, chers auditeurs, sur notre site. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pâté en croûte, Jean-François?
Alors, celui-là, il a une petite différence que celui qui est dans le livre, c'est qu'il n'a probablement pas de canard. Parce qu'entre-temps, je trouvais que voilà, je l'ai préféré sans canard.
Il est admirable, il est marbré.
Celui-là, il n'a que du veau, de la volaille. Et c'est marrant parce que Yves nous avait précédé. Il a des trompettes séchées.
Il n'y a pas de canard, mais ce n'est pas du foie gras,
si,
je vois.
Si, oui, non, mais il n'y a pas de chair de canard.
Ah oui, c'est ça. Oh, dites donc. Oh, le mélange est équilibré. Et ça, on peut faire la recette. C'est une recette que vous donnez dans votre livre.
Il y a un peu de boulot quand même. Hein.
Il y a un petit peu de boulot. Vous donnez même la recette de la pâte de pâté en croûte, qui est une pâte particulière pour emprisonner cette chair qui est bien pressée.
Avec
bien
le beurre chaud dedans.
Mais c'est vrai que ça, les amis, franchement, on va se dire la vérité. Vaut mieux ça que plusieurs entrées de moyenne gamme et de se faire un beau pâté en croûte maison comme celui-ci, Jean-François.
Oui, je vous donne une recette express de pâté en croûte.
Ah bah ouais, tiens.
Elle n'est pas de moi, elle est de Jacques Torel. Mais je l'adore.
Chef breton.
Lui, il prend une terrine. Vous savez, les bretons, ils adorent le pâté Hénaff.
Ah oui.
Il prend du feuilletage. Il étale le feuilletage un peu épais. Il met le pâté Hénaff. Il dort. Il remet du feuilletage. Il met au four. Il laisse refroidir. Il sert avec une salade. C'est démentiel.
C'est génial. Mais je l'ai fait, moi, il y a quelques temps, parce que je tournais en Bretagne et je ne savais pas que c'est comme un chausson, comme un samoussa. C'est un chausson de pâté.
Mais quand on le laisse refroidir, si on n'a pas envie de se lancer
bien sûr
dans la confection d'une pâte à pâté croûte qui est quand même un petit peu plus complexe.
Il est délicieux. Alors, on peut le trouver, vous le vendez hein, en click and collect, justement, avec Jean-François Piège à la maison actuellement. Jean-François, faut s'y prendre un petit peu à l'avance hein, pour faire une recette comme celle-ci, quand même, le choix des ingrédients. Et puis, il y a un petit peu de boulot pour qu'ils fassent connaissance entre eux au réfrigérateur.
Vaut mieux laisser 2 jours. Il y a quelque chose qui se passe.
Comme un foie gras, quoi.
Voilà. Hein,
on est d'accord.
C'est une réalité. C'est une réalité
de vieillissement. Voilà une belle idée, tiens, d'entrée pour le réveillon de Noël. Les amis, on parlait d'un bon saumon fumé. On pourrait faire un gravlax de saumon aussi en entrée. Elle ne manque pas les idées. Ne bougez pas, on reste avec Jean-François Piège, qu'on a plein d'autres. On revient dans un instant avec vos 2 minutes du vin, Olivier Pouls. Il est beau, ce vin. Mmh. De quoi s'agit-il? Eh bien, restez avec nous. Vous en saurez plus.
Have yourself a merry little Christmas.
Europe 1.
Let your heart be light.
La table des bons vivants. Europe 1. La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merry Christmas.
Nous revoilà à la table des bons vivants avec Jean-François Piège, notre invité. Jean-François Piège et son grand livre de la cuisine populaire et bourgeoise. Vous connaissiez le Gouffet, vous connaissiez l'Escoffier. Ben maintenant, il faudra faire avec le Piège. Un livre référence de la cuisine française. Je ne blague pas, 1000 recettes. Il y a des recettes bourgeoises, des recettes populaires. C'est un gardien du temple, je le disais, de notre tradition culinaire, Yves, ce livre.
Oui, totalement. Pour moi, c'est une Bible, comme on a pu avoir les Bibles Escoffier, les Bibles Herbert Dubois, tout ce qu'on a cité. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit quelqu'un comme Jean-François qui ait fait ce livre-là, qui est un chef contemporain, un chef qui est là aujourd'hui avec sa génération pour transmettre à une génération de jeunes que l'histoire de la gastronomie française, elle est présente depuis des siècles, que c'est grâce à l'histoire de la gastronomie française que la France est une gastronomie mondialement reconnue et que c'est grâce à ses fondations, quand on sait faire une seule meunière et quand aussi on a appris à la rater, on l'a refaite justement pour la faire à la perfection, qu'on est capable, parce qu'on connaît la matière, parce qu'on connaît le classicisme, de pouvoir s'exprimer et être contemporain.
Et c'est la cuisine que vous pratiquez au quotidien, Jean-François, justement. Ce n'est pas une cuisine que vous aimez comme ça de loin. C'est la cuisine que vous pratiquez à la poule au pot. C'est la cuisine que vous pratiquez populaire à l'Épidore. Vous basez évidemment sur cette cuisine pour celle du grand restaurant. Donc c'est votre cuisine de cœur aussi.
Moi, quand je vais voyager dans un pays, je vais découvrir son environnement. J'ai pas envie d'aller manger autre chose quand je suis au Japon que japonais, quand je suis aux États-Unis que les acteurs locaux. Et je trouve qu'en France, on a trop souvent oublié notre patrimoine pour s'en détacher. Peut-être parfois à juste titre, mais avec cette crise qu'on est en train de vivre, je crois qu'il est nécessaire de regarder d'où on vient pour affirmer ce que l'on est quotidiennement. Et c'est ce que, avec ces deux restaurants qui sont la Poule au Pot et l'Épidore, j'ai envie de faire. Parce que ceux qui vont venir nous visiter, l'exotisme, ça sera peut-être de manger une soupe à l'oignon.
Exactement, mais justement, notre patrimoine
culinaire. C'est ça qui est dangereux. Hein.
Quand vous avez fait ce livre, est-ce qu'il y a des recettes que vous avez redécouvertes pour l'occasion, des recettes que vous ignoriez ou que vous avez retrouvées?
Alors, ce livre, il y a plein de recettes. Quand je suis arrivé au Crillon avec M. Constant, on faisait des extras pour les jours de congé parce que, comme on ne travaillait pas assez, on faisait des extras. Et un jour, il m'a envoyé chez un monsieur qui n'est plus là aujourd'hui, qui était un grand gastronome, qui s'appelait M. Groult. Et il faisait des œufs Polignac. Les œufs Polignac, vous trouverez la recette, c'est un moule à dariole, donc un moule droit, une lamelle de truffe, on casse un œuf dedans, on cuit quelques minutes au four. Quand on le sort du four, on le met sur un toast. Sur ce toast, on met un peu de beurre noisette et on met quelques gouttes de glace de viande. Ça paraît compliqué, c'est extrêmement simple.
La glace de viande, c'est un jus réduit de viande.
Un jus réduit de viande. Et ben, je peux vous dire, quand vous mangez ça, c'est le petit Jésus en culotte de velours.
Eh bien, elle est dedans, cette recette. Voilà. Alors, vous parliez de la crise qui nous frappe. Évidemment, elle nous frappe aussi au porte-monnaie. Alors, on peut faire de beaux achats de vin, c'est ce qu'on va voir avec Olivier, sans forcément casser la tirelire. Et je voudrais qu'on aille justement sur des appellations qui font rêver. Mais on a des petits pas de côté grâce à vous, Olivier. On va commencer par les Bordeaux. Et c'est vrai que quand on pense au Bordeaux, au Pomerol, au Médoc, au Saint-Émilion, on sait qu'on va se faire un petit peu du mal à la tirelire. Là.
Parfois, ça peut être un peu cher, mais surtout, Bordeaux, c'est aussi plein de petites, entre guillemets, voilà, appellations moins connues. En tout cas, il y en a deux dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce sont deux voisines qui sont Fronsac et Canon-Fronsac. Et c'est deux petits terroirs, deux petits bijoux qui sont à l'ombre, effectivement, de Pomerol ou de Saint-Émilion. On est pas loin, hein, on est à quelques encablures, on est sur le même type d'encépagement, donc une dominante de Merlot assez forte, un terroir qui lui ressemble d'ailleurs, et des vins peut-être un peu plus abordable aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'ils vont se faire un peu plus vite. Alors quelques idées, hein, la Vieille Cure, Vrai Canon Bouché, Canon Pécresse ou Château de Carles, qui sont des vins absolument admirables.
Combien ?
Et qui coûtent entre 15 et 30 euros. Ah. Donc franchement, on est dans les choses tout à fait raisonnables.
En Bourgogne, une région que vous connaissez bien, vous avez des tuyaux aussi.
Oui, bah, vous savez, Gevrey-Chambertin, Chambol-Musigny, Van Romanée, ça fait rêver tout le monde, mais malheureusement, on est de moins en moins nombreux à pouvoir se les payer. Et il reste encore, vous savez, dans cette célèbre Côte de Nuit, deux, trois petites appellations, là aussi, sur lesquelles les projecteurs ont été moins forts. Je pense à Marsannay, par exemple, qui est l'appellation la plus au nord de cette Côte de Nuit, hein, juste à la sortie de Dijon. Marsannay, c'est magnifique, c'est évidemment le Pinot Noir. C'est peut-être pas la puissance de Gevrey-Chambertin, mais c'est beaucoup de délicatesse, beaucoup de subtilité. Alors voilà, le Domaine Bar, Bruno Clair, Huguenot, Sylvain Pataille, par exemple, qui sont de très beaux représentants de cette appellation pour des vins autour de 20-25 euros.
Alors on va descendre un petit peu vers la vallée du Rhône. On connaît évidemment le Château Neuf du Pape, les Châteaux Neufs du Pape. Il y a des choses un petit peu plus accessibles dans le coin.
Alors là, je vous ramène au nord, face à la célèbre colline de l'Ermitage. Là aussi, quel vin. Vous avez une appellation que j'adore, qui est Saint-Joseph, et qui est sans doute une des appellations aujourd'hui les moins bien valorisées de ces crues du nord de la vallée du Rhône. Ce sont des terroirs magnifiques, pour beaucoup d'ailleurs, qui sont des terroirs en semi-altitude, en escalier, et ben c'est la Syrah, évidemment. On est autour de 15 euros, les vins de Vienne, le Domaine Guigal, Chapoutier, François Villard, Courbis. Voilà des producteurs de Saint-Joseph. C'est une appellation qu'il
faut... J'adore le Saint-Joseph.
Découvrir, redécouvrir.
Épicé.
Exactement, avec ce côté un
j'adore.
Peu lardé parfois. On trouve du vin rouge et du vin blanc.
Et bon, vous mettrez les références sur europe1.fr. Vous validez Jean-François Piège ?
Oui, si on rajoute Gonon, je suis d'accord.
Ne bougez pas.
Et Jean-Louis Chave.
On revient dans un instant avec le questionnaire des bons vivants, spécial Noël pour vous, Jean-François Piège. A tout de suite et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Et vous avez entendu, hein, vous pouvez attaquer le foie gras, les terrines et les gravlax.
On passe à table sur Europe 1.
Et joyeux Noël, Mme Musquin.
Il n'y a pas de mal.
Laurent Mariotte.
C'est cela.
Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle droit.
Et Renaud, il a chanté Noël aussi. Voilà, on chante Noël ce samedi à la table des bons vivants. Oui, non mais je préférais Renaud.
Moi, il veut bien nous chanter, mais qui se déguise en Père Noël ?
C'est bah, vous, Jean-François Piège. C'est vous l'invité, Jean-François Piège.
Ah bah merci.
Le chef de Clover Grill, de Clover Green, de la poule au pot, de l'Épidore, du grand restaurant est avec nous. Cinq restaurants, Jean-François Piège, et un beau livre. Le grand livre de la cuisine française. Vous nous avez apporté une recette issue de ce livre, un magnifique pâté en croûte avec de la viande de veau, avec du porc et un joli foie gras de canard à l'intérieur. On le déguste. Qu'est-ce qu'on boit avec ce joli pâté en croûte, Olivier ?
Bah écoutez, les amis, c'est Noël. Alors, je me suis fendu d'une très belle bouteille pour Jean-François et pour vous aussi, d'ailleurs.
J'espère que Jean-François va revenir toutes les semaines. Alors.
Je vais vous en servir.
J'avoue, franchement, je suis... allez, je vais le dire. Sur le cul de la qualité de ce vin. Voilà. Même si je le connais, là, c'est wow.
Très bel accord. Racontez-nous.
Voilà, je vous ai sorti un vin de chez du domaine Albert Boxler en Alsace. Jean Boxler, que je salue, qui est un vigneron modeste et extrêmement talentueux. C'est un Pinot Gris. C'est pas le cépage le plus connu de l'Alsace, mais ça donne des vins d'une très belle finesse quand ça vieillit un peu. C'est un 2010. C'est un Grand Cru Sommerberg. Et je trouve que la tonicité du vin, ce petit côté un petit peu fumé qu'il a développé avec le temps sur le pâté en croûte, c'est une pure merveille.
Ça marche très bien. Ça coûte cher, ça ?
Alors, à l'achat, la propriété, c'est raisonnable. Malheureusement, il n'y en a pas à vendre sur place.
Et c'est ça, voilà, ça fait partie des vins
peut,
qui sont
on peut se rabattre sur un autre, qui est son Pinot Blanc. Là, qui
oui,
est...
toute la gamme de chez Albert Boxer
voilà,
est absolument
des vins accessibles.
Remarquable.
Ah ouais, on vous a vu, Jean-François Piège, sur différents plateaux télé, hein, vous exprimer sur la crise que traverse le monde de la restauration. Vous, le chef exigeant, solide, précis, rigoureux, On vous a vu un peu fendre l'armure parfois aussi. Et qu'est-ce qu'elle a changé en vous, cette crise ?
Bah, le sentiment un petit peu d'injustice qu'on vit, nous, en ce moment, avec le combat que je mène contre les assureurs. Parce qu'AXA, qui est notre assureur, ne nous assure pas et utilise tous les subterfuges pour ne pas être au rendez-vous. Donc ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que l'injustice ramène toujours un sentiment qui est pas très agréable. On a toujours été, tous les restaurateurs, et je vais parler au nom des restaurateurs, parce que j'ai la chance d'avoir la parole, mais je pense que tous les restaurateurs se sont conformés aux consignes de l'État, ont rempli toutes les mesures de distanciation, de protection pour nos clients. On nous a demandé de fermer, on s'y est conformé avec toutes les règles. Et aujourd'hui, on nous prive de notre liberté d'entreprendre. On le comprend dans cette crise. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous, en tant que chef d'entreprise, on nous laisse assumer toute la responsabilité et tout le coût de cette fermeture. L'État n'est pas suffisamment au rendez-vous et les assurances sont les grands absents. Je pense que l'État doit légiférer sur les assureurs. Ceux qui ont souscrit des assurances avec des pertes d'exploitation, arrêtez de jouer sur les mots. Dans le code des assurances, quand il y a une ambiguïté, le code est clair, c'est en faveur de l'assuré. Donc, qu'il nous assure et qu'on passe à autre chose. On a envie de passer à autre chose aujourd'hui.
Comment vous voyez évoluer le métier, Jean-François Piège ? La date de la reprise.
Alors, au-delà de la date de la reprise, moi, je suis très, très confiant parce que dans tous ces malheurs qu'on a subis, nous tous d'ailleurs, il y a un vrai bonheur, c'est d'avoir eu les mangeurs qui étaient là dès le départ. Dès qu'on a réouvert, ils ont été là. Moi, ça a été ma crainte lors du premier confinement de ne plus avoir de clients, en fait. Et en fait, on a eu, dès qu'on a pu réouvrir, les clients étaient là et c'était un vrai bonheur.
Donc la fidélité des clients,
merci,
des gastronomes.
Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est un grand merci à tous ceux qui étaient là dans nos restaurants et qui étaient là nombreux, qui nous soutenaient et qui nous remerciaient d'avoir réouvert. Et je dis non, c'est nous à vous remercier d'être chez nous et c'était assez touchant.
On a vécu la même chose dans les théâtres. Il y avait une émotion pareille.
Incroyable.
De retrouver des salles qui étaient remplies.
Mais je pense à tout le monde. Pardon, j'ai parlé de moi.
Non,
à
mais
titre
on parle
personnel,
de tous les restaurants, mais, j'entends bien.
Mais ce que je suis en train de dire, c'est pour tous les restaurateurs et pour tous ceux qui sont aujourd'hui fermés. Parce qu'aujourd'hui, à part les cafés, les restaurants et les gens du spectacle, on est les seuls fermés.
Alors, vous le savez, Jean-François, dans cette émission, il y a une tradition. C'est notre
grille. On retrouve le sourire, c'est ça.
On retrouve le sourire, exactement. Mais c'est ça, la vie, c'est comme la cuisine. Il y a des hauts, il y a des bas. Et là, on va parler justement de jolis hauts, de jolis souvenirs qui vous concernent à propos de Noël. Alors, quel est le goût de votre enfance à Noël, Jean-François Piège ?
Moi, je vous l'ai dit, c'est le foie gras. Moi c'était le bonheur de retrouver toute la famille autour d'un foie gras. Et je me souviens de savoir qui allait couper le foie gras parce qu'il fallait le couper correctement. Et moi, j'étais trop jeune, hein, donc je regardais ça avec, avec distance. Maintenant, j'en rigole.
Vous vous souvenez du premier plat que vous avez cuisiné pour Noël ?
Oui, je me souviens de la catastrophe. Oui.
C'était quoi ?
C'était une bûche au chocolat.
Et que, ah oui, elle
n'a
pas pris ?
C'est bon. Non, c'est bon.
Elle est trop longue, elle ne rentrait pas au frigo.
En fait, j'ai fait une génoise et j'ai mis la feuille sur une grille. Ouais. Donc quand je l'ai mis au four, ça a un peu coulé dans le four.
Votre plus beau repas de Noël ?
C'est le prochain que je vais faire avec mon épouse et mes deux enfants.
Et voilà, au moins, ce confinement a permis de retrouver un peu plus la famille.
C'est mon côté, parce que je suis tous les soirs à la maison et je vais passer Noël et jour de l'an avec mes enfants et ma femme.
L'ingrédient qui symbolise Noël pour vous.
Je me répète. Mais peut-être qu'après le foie gras, j'aime bien la poularde. Moi, mon repas, c'est foie gras et poularde.
Bienvenue au club. Qui seront vos cinq convives pour Noël, Jean-François Piège ?
Eh bien, mon épouse, mes deux enfants.
Et quel est le plat que vous allez cuisiner pour Noël alors ?
Je vous l'ai dit, je
vous ferai pas.
Et en dessert ?
En dessert, j'ai signé une bûche chez La Durée qui est la transgression de mon blanc manger version bûche.
Oh.
Et donc on va manger ça.
Ah, ça c'est beau ça, oui. Ah, oui
vanille caramel.
Ah oui, c'est beau, c'est une belle douceur pour terminer. Votre bande originale pour cuisiner le menu de Noël, Jean-François ? Une chanson de foie gras.
Stéphanie de Monaco.
Jingle foie gras.
Non, une chanson d'un ami qui soit là ou pas là, mais des gens qu'on aime en fait.
Le cadeau qui se mange, que vous aimez offrir, Jean-François Piège.
Vous allez me détester. C'est du foie gras.
Ben non, on prend justement.
C'est du foie gras.
On soutient la filière absolument.
Non, hein. Mais c'est vrai, c'est important aussi. Hein.
Mais je plaisante.
C'est important.
Pas. Et le mot de la fin, F-A-I-M.
Foie gras.
Du foie gras, mais surtout du foie gras et qu'on a fait longtemps à l'avance parce que le temps dans le foie gras, il amène un goût, il amène une maturation.
Comme dans le vin.
Voilà. Et qu'on sert avec une belle tranche de pain au levain grillé, de la fleur de sel et du poivre. Chacun l'assaisonnera à son goût. Et si c'est pas le bonheur, ça y ressemble.
Eh ben, du foie gras, il y en a dans ce grand livre de la cuisine française. Recettes bourgeoises et populaires de Jean-François Piège aux éditions Hachette. Merci Jean-François.
Merci à vous tous et merci. Joyeux Noël.
Joyeux Noël. Merci. Absolument. Merci Yves, merci Olivier. Merci à toute ma bande de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou, Agnès Vaudin, Julien Matt, Alice Fosse et Jean-Luc Arblad à la réalisation. Vous retrouvez, vous le savez, le podcast sur europe1.fr. Il vous attend ainsi que la newsletter. Bon week-end, faites le marché en prévision de Noël et du réveillon, hein, pensez-y, on vous a donné plein d'idées justement pour le passer avec vos invités et pas qu'en cuisine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un bon vivant aventurier, c'est Denis Brognard qui sera là. On va manger, mais on va bouger aussi. Allez, dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1 et merci de votre fidélité.